Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
La petite se réveilla au son du soleil. Elle resta étendue longtemps, essayant de rassembler chaque morceau de son corps. Quand elle se leva, elle constata que, étrangement, tout était à sa place. Ses mains, son ventre, ses jambes, son visage, le timbre de sa voix, le bruit de la pluie contre la vitre, l'odeur musquée de sa chambre, les piles de livres jaunis sur le sol. Pourtant, quelque chose a changé. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Marine Perrard et Myriam Mal à l'occasion de la publication de leur ouvrage « La princesse sans reflet » aux éditions Daronne. C'est parti. Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Ici, donc Myriam, tu es l'illustratrice. Marine, tu es l'autrice. Comment ça s'est passé en fait? Racontez-nous.
J'ai écrit une première version du texte il y a quelques années maintenant. Et en fait, c'était la moitié du texte actuel. Ça s'arrêtait au milieu. Donc j'avais écrit cette version que j'avais présentée à mon agente qui s'appelle Julie Finidori. Et on voulait que ce soit un texte illustré parce que c'est un conte et on s'est dit l'illustration ira bien avec avec ce texte-là. Et on a pensé à Myriam en se disant ce qu'elle illustre dialoguerait bien avec ce texte-là. On t'a écrit un peu sur un coup de tête. On s'est dit tu dois être très sollicitée, une autrice inconnue de la poésie comme un genre un peu spécial. C'est touchy mais on ne sait pas. Et tu nous as répondu pour nous dire, allons-y. Et on a discuté autour du texte, et tu m'as fait une réflexion dont je ne me souviens plus le contenu exact, mais qui était en gros, il faut faire attention aux idées qu'on transmet à nos communautés, et aux sous-textes qui peuvent être générés. Et c'est vrai que la première version du texte, la première moitié, est une histoire quand même relativement sombre, et on pouvait se demander un peu quel était l'espoir là-dedans. Et à partir de là, je me suis dit, on va écrire une suite. Et cette suite sera un peu le pendant lumineux de la première partie du texte. Et c'est venu tout seul. Et à partir de là, on avait la version finale du texte. On a contacté Daronne et on a commencé à faire les illustrations à partir de là.
Ça me touche que tu dises, tu m'avais dit l'autre jour quand on s'est vu aussi, mais que ça... Tu me dises que ça a aiguillé la deuxième partie du texte, parce que dans ma tête, c'est surtout ton texte à toi. Moi, pour rajouter, c'est pas tant que je suis tant sollicitée que ça, c'est juste que plus ça avance dans ma carrière, plus j'aime faire mes propres projets, et je suis très... je suis un peu contrôlante avec mon travail, avec ce que je fais, j'aime bien tout maîtriser, et j'ai bien mon rythme de travail à moi, et puis plus ça va, plus j'essaye de faire que des projets qui viennent de moi, et voilà. Et surtout, pour être honnête, la plupart du temps, quand il y a des gens qui te contactent et qui disent « Salut, j'ai un projet, j'ai pas d'éditeur, j'ai machin », c'est rarement un truc... très bon, c'est beaucoup des gens, parce que moi, comme je fais de la BD, les gens ils se disent « Ah, la BD, c'est un sous-médium !» Et donc, c'est des gens qui n'ont jamais fait de BD, qui pensent qu'ils peuvent faire de la BD parce que c'est un truc hyper basique. Et moi, je pense que tout le monde peut faire de la bande dessinée, mais c'est pas genre un sous-art à la portée de tout le monde. Il y a quand même des... C'est bien d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et donc, il y a un truc un peu méprisant. Là, il n'y avait pas du tout ça, au contraire. Et surtout, des fois, c'est des choses aussi qui reviennent un peu à ce que je faisais au début. C'est-à-dire, on me propose des projets didactiques et maintenant, je suis quand même plus dans la fiction et tout. Bref, mais tout ça pour dire, j'ai quand même ouvert le mail, j'ai lu et j'ai été très, très, très touchée et très émue par le texte. On dirait que j'ai fait toute la première partie pour dire « Ouais, je suis vraiment une star, tout le monde m'écrit tout le temps. » C'est pas du tout ça, c'est plus pour dire que c'est vrai que souvent, en tant qu'illustratrice, quand on reçoit des propositions de projets qui n'ont pas forcément d'éditeur, d'éditrice, c'est souvent des choses qui sont pas très professionnelles. Pas forcément au niveau de la qualité, mais plus au niveau de l'échange et de ce qui est attendu et des conditions de travail. Bref, mais tout ça pour dire, là, j'ai trouvé que c'était... vraiment un très beau texte. Et puis en effet, après, quand on a parlé de ça, je pensais beaucoup à la portée politique d'avoir de l'espace et de la joie. Et d'ailleurs, c'était un peu fou. Enfin, j'ai aimé que quand j'ai eu la suite du texte, c'est drôle parce qu'on ne s'est pas du tout concerté ou quoi. Et en fait, c'était pile dans les réflexions que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire le groupe, la communauté, comment guérir les unes avec les autres et en s'aidant. Et en... Enfin, il y avait vraiment tout ça qui était au cœur de, ce que, de mes réflexions, de mon travail d'autrice et tout. Et donc là, de le retrouver, c'était vraiment une résonance très, très merveilleuse.
Allez. C'est agréable de voir une famille d'autrices, créatrices, illustratrices, voilà, qui travaillent ensemble pour nous créer, en fait, ces futurs qu'on a beaucoup appelés désirables, dans ce sens des utopies féministes, mais aussi dans des choses peut-être plus concrètes, d'une vie en communauté, d'une vie entre nous, entre personnes en besoin de réparation, ou etc. Et c'est vrai que en voyant ce travail-là, je me disais, mais en fait, on pourrait avoir l'impression que ça va être très difficile à lire, parce qu'il y a des petits warnings, enfin même juste il y a des warnings, on sait qu'on va aborder des thématiques pas simples, et pour autant, je pense que c'est pas là, en fait, ce dont on va se souvenir. Et ça, c'est un endroit de narration hyper beau que vous avez trouvé toutes les deux et qui fait un beau ping-pong en plus, évident, avec l'illustration. Donc, merci beaucoup pour ça. On a déjà commencé à parler un peu de l'histoire. Ici, on va être dans un conte avec du « Il était une fois, une princesse », etc. Et je me suis dit, en fait... On est un peu à contre-courant de tout ce qui a été proposé ces derniers temps, où on a tendance à réécrire différemment des contes, à essayer de tordre les formes, que ce soit dans des écritures des langues plus inclusives ou non-genrées, ou enfin d'essayer comme ça, en fait, de tout transformer pour accueillir nos nouvelles histoires. Mais... ici, tu es allée, Marine, vers un conte qui commence vraiment d'une manière extrêmement classique. Pour toi, c'est une forme, le conte, qui a besoin aussi dans sa tradition de rester comme ça, cette petite ritournelle qu'on a beaucoup entendue. C'était un endroit qui te... Parce que tu disais que tu l'avais écrit il y a déjà un moment, mais c'est quoi ton rapport au conte ?
Alors, il y a deux réponses possibles. La première réponse, elle est très pragmatique, c'est que cette histoire, à la base, c'est quand j'étais animatrice culturelle et j'étais conteuse. Et je racontais des histoires aux enfants sans support écrit. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire ma propre histoire à leur raconter. Et c'est pour ça que j'ai repris le motif de « Il était une fois une princesse », parce qu'on travaillait dans un ancien château fort et on racontait beaucoup d'histoires de princes et de princesses. Donc ça, c'est la réponse pratique. Et la réponse plus général, c'est que je trouvais ça intéressant de reprendre vraiment une forme ultra classique et de la twister un peu pour parler de sujets qui sont pas contemporains, vu que c'est des sujets dont on parle depuis toujours et qui sont présents depuis toujours, mais pour amener des sujets engagés, en fait. En soi, on pourrait penser qu'un conte, c'est tout ce qu'il y a de plus dépolitisé, et en fait, comme tout, littéralement tout, je pense, ça peut se politiser si on le souhaite. Et voilà, j'ai essayé de le politiser.
Et parce qu'on sait très bien, hein, avec le... Il y a des livres qui ont été écrits dessus, on sait très bien que les contes, en fait, sont beaucoup plus durs et violents et problématiques que ce qu'on a bien voulu nous transmettre ou ce qui a été après transformé notamment par Disney, etc. Mais là, d'une certaine manière, en vrai, donc oui, tu parles de twister, etc., mais peut-être qu'en gros, tu as juste dit la vérité des contes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la Belle au bois dormant, elle se fait embrasser sans qu'elle ait son consentement. Puis dans certaines versions, elle est enceinte, en fait, après de ça. Donc on entend derrière ce que ça veut dire, donc un viol. D'une certaine manière, en fait, là, tu proposes une version accompagnée, parce que tu laisses pas juste l'héroïne, la princesse... se débattre avec ça, et puis bah, tant pis, c'est ta vie, c'est que tu vas faire une suite, et heureusement, enfin, une autre type de fin. Mais pour autant, tu te rapproches quand même assez fort du vrai conte, en fait, de ce d'antan, on va dire.
Bah, j'ai un peu l'impression que, suivant les époques, chaque auteur, chaque autrice a été le reflet de son époque et de ce qu'il ou elle pensait, tout simplement. Genre, je pense par exemple à Perrault, hein. Je sais pas, c'est un conte ou une fable, hein. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte. Hein.
Oui, je pense.
Oui. Si on lit la version originale de Perrault, à la fin, il y a un sous-texte qui est « Oui, bon, il faut faire attention au loup, et c'est un peu ta faute si t'as croisé le loup, bah, tant pis pour toi. » bon, bah, c'est le reflet de Perrault. Mais moi, j'avais envie d'être mon propre reflet, qui est bah, un point de vue plus... la princesse fait des mauvaises rencontres, ça se passe pas très bien pour elle, mais il y a un espoir qui est possible, il y a un après qui est possible. Et à la fin de la toute première version, il y avait quand même cette idée d'après, mais elle n'était pas développée parce que j'étais pas encore là dans mon raisonnement à moi, en fait. Et puis, bah, 2 ans ont passé, on a discuté ensemble, et c'est là que je suis arrivée à cette possibilité de pas juste formuler l'idée d'un après, mais aussi de bah, la développer, en faire toute une seconde partie de l'histoire.
Et donc là, on entend cet endroit de connivence créative entre vous. Myrion, comment tu t'es projetée sur ton dessin qui, au final, est, moi, j'ai trouvé différent hein, de tes projets, de ce qu'on avait déjà vu. Tu es sur un autre type de trait. Alors, j'imagine que ça vient peut-être aussi de ta technique, enfin, en tout cas de l'outil peut-être que tu as utilisé sur ces planches-là. Mais il y a quelque chose... évidemment du jeu des reflets, des ombres, des lumières qui vont faire du ping-pong entre ton texte Marine et de ce fait ton dessin Myrion. Comment tu t'es emparée, tu as tout de suite eu ce personnage en tête, parce que j'imagine qu'illustrer un projet, ça demande à un moment donné de se décider et de dire oh, bah allez, ça va être ça mon héroïne, elle va être comme ça quoi.
Oui, bah, en fait, déjà, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a donné envie d'illustrer le texte, c'était sa qualité et le fait d'entrer en résonance avec. Et tu parlais, enfin, et même si la première partie était plus sombre, il y avait quand même un soin qui était apporté à la personne qui allait lire le livre, dans le sens que c'était pas déclencheur, je sais pas, c'est moins joli en français que. En tout cas, on est moins habitué. Mais. Et après, l'autre chose aussi, c'est que je me disais que d'une façon plus technique et puis aussi en tant qu'artiste, qu'illustratrice, moi je me considère en premier lieu comme autrice de bande dessinée. Je pense que vraiment la BD, c'est mon médium et ça ne veut pas forcément dire que je mets l'écriture avant le dessin parce que pour moi, dans la BD, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça marche ensemble. Mais je suis moins à l'aise en faisant de l'illustration et surtout, en fait... on m'a beaucoup cantonnée dans un certain genre de livres parce que j'ai commencé en faisant de la BD didactique et après, et j'adore les livres par exemple que j'ai lus chez La Villebrule, les petits livres éducatifs et tout ça, mais c'est vrai qu'on me propose rarement des projets différents alors qu'en fait moi j'ai pas des objectifs mais un peu des velléités artistiques des fois de tenter d'autres choses, un autre style de dessin. Et par exemple sur mon Instagram, parce que c'est mon espace à moi, c'est terrible que ça soit une plateforme multinationale terrible qui est faite pour engranger de l'argent sur le dos de personnes qui font un métier d'influenceur. Mais bref, non, enfin, je vais pas faire la promo d'Instagram et donc je fais une très longue parenthèse pour dire ça. RIP, les blogs BD. Mais tout ça pour dire que sur moi, dans ma pratique personnelle, ben j'aime justement tester d'autres choses et là c'était une belle opportunité, surtout que donc je viens de revenir en France mais j'habitais au Québec pendant 7 ans et là-bas la scène éditoriale de la poésie est très riche, c'est vraiment un des milieux littéraires où il y a le plus en tout cas j'ai l'impression, si je pense à la littérature québécoise, je pense à la poésie, à la bande dessinée. Bon, la bande dessinée, j'ai un biais, mais la poésie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a plein de lectures de poésie, il y a des festivals de poésie, il y a des maisons d'édition spécialisées en poésie. C'est vraiment une scène culturelle très riche et très diverse. Et en fait, quand je trouve qu'en France, il y a moins ça, et je pense qu'il y a autant de poétesses et poètes, mais je pense que c'est quelque chose dans les maisons d'édition où les gens sont plus frileux, c'est aussi pas le même public, etc. Et on est resté sur Rimbaud et Baudelaire, et voilà, et il n'y a plus grand monde après. Mais j'exagère, mais bref. Tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était une super opportunité pour moi aussi de d'une façon un peu égoïste, de pouvoir illustrer une forme que j'apprécie particulièrement, qui est la poésie, et surtout donc là un conte poétique. Et pour trouver, en fait, au début, c'est drôle parce que j'étais tout de suite partie sur... Enfin, j'avais fait des essais, un essai d'illustration à présenter aux maisons d'édition. Donc un peu pour aller dans ce style où j'étais partie sur un truc beaucoup plus gravure médiévale que j'ai ensuite un peu gardé mais abandonné en même temps. Mais j'étais partie sur de la full couleur, etc. Et c'est après, en peaufinant le livre, qu'on est allé sur de la bichromie parce que, en fait, justement, comme ça, on fallait pas que ça fasse trop jeunesse parce que les livres illustrés, ben, ça peut faire trop comme la jeunesse. Et là, on veut bien montrer que c'est un livre un peu à part et une... Donc c'était super intéressant de réfléchir à tout ça d'un point de vue bah, pas éditorial parce que c'est pas mon rôle d'éditrice, mais dans le sens, je me disais, ah mais il faut que, en tant qu'illustratrice, je pense aussi à comment le livre va exister dans les rayons et qu'est-ce que ça... Donc voilà. Et puis pour le bleu, je sais pas, je trouvais que la couleur allait bien, en plus t'avais les cheveux bleus à l'époque et je pense que j'ai... Non mais enfin voilà, j'ai assez... Et après, c'est ça, c'était un peu à partir de cette couleur-là et on a fait le truc d'aller bah, d'une couleur un peu plus froide à une couleur de plus en plus chaude et pour moi c'était vraiment... C'était très agréable de tenter de nouvelles choses dans un cadre qui n'était pas forcément juste le mien, de justement avoir d'autres gens avec qui dialoguer. Et voilà, et j'ai trouvé aussi que... Enfin, c'était... J'ai aimé être impliquée dans la mise en page du texte, mais enfin, au niveau ça, pouvant décider un peu de où mettre mes dessins. Et même des fois, je trouve ça trop bien qu'il y ait des endroits où il y ait juste du texte, parce qu'en fait, le texte... se suffit à lui-même et je pense toujours que c'est bien de lui laisser la place quand il y en a besoin et bref, enfin, de pas mettre une illustration parce qu'il faut mettre une illustration et je suis très heureuse, j'espère que toi aussi, mais je suis très heureuse justement de la au-delà du dessin ou quoi, mais de la mise en page et de comment le texte et les dessins dialoguent et la place qui est donnée à ton texte, parce que pour moi c'était important.
Oui, mais c'est ça, l'équilibre en fait que vous avez trouvé est vraiment très singulier, il y a quelque chose de n'est absolument pas systématique, il y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas d'illustration à chaque page, et les illustrations vont être, j'ai trouvé, en complémentarité. En fait, on peut lire ton texte, on peut regarder les illustrations, et quand on les met ensemble, on a une globalité, c'est pas deux fois la même chose. Et c'est vrai que c'est là où on voit qu'on a affaire à deux personnes avec aussi leurs identités graphiques ou poétiques et ou slash poétiques. C'est que on voit bien, Myriam, que tu t'es emparée de cette histoire et que tu y as mis ton univers, ton monde graphique. Et donc on va retrouver, évidemment, hein, comme à chaque fois que je te reçois et à chaque fois que je te vois, je t'en parle de tes mains. que j'adore tant, de des grands yeux, de tes personnages. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, tout comme les mots que tu peux utiliser, Marine, et quand je me souviens encore de ma lecture de Viande à viol, donc ton premier recueil de poésie. Enfin non, c'est même pas ton premier livre de poésie, c'était pas un recueil. Il y a des mots comme ça en fait qui rappellent le style d'écriture. Ben, t'as aussi ça en dessin. En fait, on vous reconnaît dans ce livre, toutes les deux. Et c'est quand même... c'est chouette quand dans une collaboration, il n'y a pas un travail qui va prendre plus de place que l'autre ou l'autre qui va servir à l'autre travail. Et je me dis que ça a dû être en effet un bon travail ensemble, en fait. Et que ça sert l'histoire, puisque c'est tout ce qui est construit au final dans les mots que tu portes, l'histoire que tu racontes. On sent bien donc toute l'énergie et cette fin beaucoup plus heureuse que vous vous êtes apportée, hein, on peut dire comme ça. Pour autant, le personnage principal va quand même passer par des épreuves pas faciles, enfin même terribles, et va rencontrer un autre personnage qui lui-même va aussi raconter une expérience douloureuse. Pour autant, quand on les lit, il y a quelque chose en effet d'un soin, donc Myriam, tu le disais un peu plus tôt, de faire attention aussi à nous, lectrices, parce que ben, c'est pas facile de lire les violences sexistes et sexuelles, c'est pas facile, même si on en a beaucoup entendu, beaucoup lu, il y a des moments où on n'est pas capable en fait, de les lire encore une fois. Et ce travail-là que tu as fait de narration, Marine, tu l'as conscientisé qu'il fallait en fait trouver des systèmes pour en parler sans en parler. Parce qu'en fait, tu nommes pas exactement ce qui se passe, mais on le comprend. Ou peut-être qu'on comprend ce qu'on peut comprendre. Tu vois, le niveau de violence est peut-être adaptable, en fait, non ? Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression.
Bah, pour moi, c'était important de partir sur une métaphore, donc la princesse qui perd son reflet, en sachant qu'à la base, le processus a été à l'envers, hein, c'est-à-dire que j'avais cette histoire-là, la princesse a perdu son reflet, la question étant, mais pourquoi elle a perdu son reflet ? Et à cette époque, j'étais en pleine réflexion sur la question de comment on représente les violences sexistes et sexuelles. Et ça s'est greffé l'un sur l'autre assez naturellement. À partir de là, j'ai tout déroulé suivant ce fil de « je veux que ce soit sous forme de métaphore, sous forme d'image, pour que, comme tu dis, chacun puisse aussi y projeter selon sa capacité, de son envie, où il ou elle en est ». Et c'est valable aussi pour le second récit, donc de violence qu'on va lire, où je voulais que ce soit relativement enrobé, en fait, parce que c'est une histoire terrible, mais c'est aussi une histoire de survie, de continuer, d'aller de l'avant, etc. Et je voulais que ce soit, qu'il y ait toute une histoire autour de ça qui rende ça plus facile à lire, plus facile à comprendre, et que globalement on soit dans une attention, comme vous disiez, du lecteur et de la lectrice.
Mmh. Et pour toi, Myrion, à chaque fois, je fais le petit ping-pong. Mais parce qu'en fait, on aurait envie en fait, que vous parliez en même temps, mais on ne s'entendrait pas si c'était comme ça. Donc, tellement tout le travail se fait bien ensemble. Mais dans ton travail d'illustration à ce niveau-là, en fait, comment toi, tu accueilles l'histoire, tu entends, tu vois, en fait, les endroits de ces fameuses violences. Comment dans ton... quels sont les stratagèmes, en fait, que tu mets en place? Parce que, bon, là, la princesse sans reflet, on imagine, et c'est la couverture, une princesse face à un miroir sans reflet. Mais il n'y a pas que ça, en fait. On ne va pas que parler, en fait, de cet endroit du sans reflet tout au long du livre. Comment ton imaginaire a fonctionné à ce moment-là, et de trouver des techniques pour montrer sans montrer, en fait, au final?
Je pense que, bah, déjà, quelque chose à laquelle je réfléchis depuis longtemps dans mon travail. En fait, même pas que dans mon travail, c'est quelque chose qui m'est venu d'abord en tant que spectatrice, de me dire, mais pourquoi à chaque fois que je vois des... Pour le coup, en plus, c'était des violences sexuelles représentées, ça me met dans un état pas possible, c'est extrêmement violent à recevoir. Et en fait, bah, c'est des réflexions que j'avais et dans mon travail... je veux dire littéralement parce que c'était quand je faisais mon blog et où je parlais justement d'analyser les médias. Et en même temps, moi en tant qu'artiste dans mon travail d'écriture, je me disais mais en fait j'ai l'impression, et donc en tant que spectatrice, et tout ça, je me disais mais en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin et que c'est pas fait pour nous. Et d'un autre point de vue, par exemple en tant que personne blanche, quand on voit des violences racistes et tout, souvent, on se rend compte que c'est des choses qui sont faites... Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire, pardon. Quand il y a des violences racistes qui vont être montrées de façon extrêmement graphique, c'est comme si c'est pour nous dire, genre... pour des spectateurs et spectatrices blanches, pour dire « Ah, on veut vous choquer, vous !» Et ça va venir parce que vous avez pas dans cet imaginaire cette peur-là, ou voilà. Et c'est un peu la même chose, donc de l'autre côté, en tant que femme, ben, j'ai l'impression que c'est pas destiné à moi, en fait. Enfin, que c'est pas destiné, pas moi personnellement, mais aux femmes, au groupe des femmes, au groupe de personnes qui ont vécu des violences sexuelles ou qui ont grandi avec la peur d'en vivre, parce que c'est aussi quelque chose, on n'est pas obligé d'en avoir vécu pour... Et notamment, je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire collectif. Et donc, à quel imaginaire collectif on va faire appel quand on écrit un livre, quand on illustre un livre ou d'autres médiums, il se trouve que ça, c'est le mien. Mais, et en fait, bah, par exemple, si jamais je me dis que l'imaginaire collectif auquel je fais appel, c'est les personnes victimes de violences sexuelles, bah, je vais me dire qu'elles vont comprendre, en fait, les sous-entendus, elles vont comprendre, et que ça sert à rien. Et j'y pense pas tant en me disant je vais faire quelque chose pour qu'elles comprennent, mais plutôt, je vais faire quelque chose pour pas les blesser, et tant pis si des gens à côté ne comprennent pas ça. Par exemple, dans C'est comme ça que je disparais, c'est dit dès le début que l'héroïne a vécu des violences sexuelles, un viol en fait, et c'est redit à la fin. Et en fait, j'ai remarqué que pas mal de critiques hommes étaient complètement passées à côté au début du livre, et ça peut arriver que des femmes aussi l'aient pas compris, parce que c'est évoqué, c'est pas... Et vraiment en mode plot twist final, présenter ça comme un plot twist final du livre, alors que c'était pas du tout le cas. Et en fait... tant pis, je préfère me dire que voilà, bref. Donc ça, c'est un peu ma réflexion. Désolée, c'est très long. Et donc, je pense que là, je me suis pas tant posé de questions par rapport à ce livre en particulier parce que c'est quelque chose que je porte avec moi depuis longtemps. Et en fait, comme le texte de Marine va aussi dans ce sens, et encore une fois, il s'agit pas d'édulcorer, il s'agit pas de ne pas mentionner, de ne pas en parler, mais juste d'en parler d'une façon où on se dit la personne en face sait. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre mes gros sabots et d'étaler ça. Et donc, par exemple, à un moment, il y a un dessin du prince et j'ai choisi de le faire un peu de dos pour qu'il soit à la fois mystérieux et inquiétant. Et bon, là, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais c'est, voilà, c'est plus d'aller sur d'autres détails parce que tout ça pour dire que je pense que c'est jamais nécessaire de représenter graphiquement une violence... là, dans ce cas-là, sexuelle, et même... pardon, sinon je vais partir dans trop de trucs, mais y a, bien sûr, il y a des violences qui... Mais en tout cas, par exemple, la violence, elle peut être évoquée par beaucoup d'autres choses qu'une représentation très graphique de l'acte, c'est ça que je veux dire. Et que quand c'est représenté, c'est tout le temps pour... c'est fait pour choquer les gens qui ne vont jamais vivre cet acte ou cette peur-là. Exemple, moi, j'ai fait une maîtrise de cinéma et vous pouvez pas imaginer le nombre de dudes qui veulent absolument montrer l'extrait du viol d'Irréversible. J'ai jamais vu. Mais c'était un truc que chaque semaine en classe, il y avait un cours où on devait choisir un extrait à montrer. Bon, bref, voilà. Chaque semaine, tu voyais qu'il y avait un groupe de meufs qui étaient en mode « Non, non, on va plutôt regarder tel truc, tel truc, tel truc. » Parce qu'il y avait des... Ils voulaient absolument, parce que pour eux, voilà, ça, c'est hyper choquant et c'est hyper machin. Mais en fait, imagine montrer ça devant un amphi où la moitié, c'est des filles. Tu sais pas comment les gens... Bon, bref. Et non, mais il y a un truc de passer à côté d'un enjeu. Et je pense que là, on le confronte dans notre écriture. Est-ce que ça fait du sens? J'espère. Mais voilà. Et c'est ça. Et encore une fois, je trouve que le texte... le fait déjà très bien, donc ça aurait été, je pense, un mauvais travail de ma part d'y aller avec justement ces gros sabots-là. Mmh. Parce que ça serait allé complètement, je pense, à contre-courant. Et d'ailleurs, ton livre précédent, c'est drôle parce que le titre, je m'étais dit « Oulala, ça va être dur à lire », et en fait, quand je l'ai lu, pas du tout. J'ai trouvé qu'il était bizarrement très doux à lire, et pas du tout une chose violente à recevoir. Donc voilà.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait déjà, de ta part, Marine, un soin apporté au lectoriste. Je me souviens très bien qu'on sentait, en fait, que tu avais fait attention à la façon dont tu racontais les choses. Et c'est vrai que, là, de ce fait, il y a une certaine dualité avec le titre qui peut très bien surprendre, mais qui, à un moment donné, met les mots. En fait, et je pense que pour La princesse sans reflet, il y a un peu cette idée-là de on met les mots, mais après, en fait, il se passe plein d'autres choses. Et c'est ce qui crée aussi du jeu, de la surprise, du trouble chez les lectoristes, c'est que tu donnes à voir quelque chose, mais en fait, il se passera plein d'autres choses derrière. C'est assez chouette aussi. À un endroit où vous vous retrouvez, au final, c'est dans l'écriture. Puisque plus on avance dans l'histoire, donc vous l'avez déjà entendu, il se passe des choses de l'ordre de la communauté, n'est-ce pas? Et pour que cette communauté advienne, c'est par l'écrit, en fait, qu'il y a une première rencontre. Donc c'est le moment où, en fait, donc, ton texte Marine va rencontrer ton texte dessiné, on va dire ça comme ça, Myrion. Cet endroit-là, il était prévu très spontanément, ou parce qu'au final, concrètement, ça se dit, c'est en fait les femmes du dessin qui vont rencontrer les héroïnes de ton histoire. Donc ce petit jeu-là, il est hyper intéressant parce que là, on voit vraiment que c'est votre rencontre à toutes les deux pour le coup sur une page, quoi, ou plusieurs. Mais c'était une idée qui vous est venue dans la mise en page ou vous l'aviez... comment ça vous est venu, quoi? On veut tout savoir, en fait.
Moi, je j'avoue que ce n'était pas du tout mon idée et j'ai suivi les recommandations. Et je trouve que c'était une très bonne idée, mais je n'y suis pour rien.
Je pense que le point de départ de l'écriture, c'était une référence au collage féministe qu'il y a eu et qu'il y a toujours, si je ne m'abuse. Voilà, c'était reprendre certains des slogans les plus connus et de les transcrire dans une forêt, hein, parce qu'il va y avoir une forêt. Et voilà, et l'idée que ça a une période, certaines personnes se sont rencontrées via ces slogans dans la rue, et ben là on se retrouve à nouveau, mais dans un contexte complètement différent. Et à partir de là, il y avait de l'écrit, hein, l'écrit avant la parole. Et je crois que c'est nos éditrices qui ont eu l'idée que ce soit toi qui écrives. Mmh. Et c'est vrai que je ne sais plus quel était le point de départ, mais ça fonctionne très bien. Donc merci les éditrices.
Oui, oui, c'est ça, c'est un retour. Et ça faisait du sens. Et j'ai même oublié à la fin d'envoyer un des fichiers. Et j'en ai honte. Il a fallu que je me dépêche. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est drôle, j'y avais pas pensé comme ça à... La rencontre... Enfin, j'avais tout l'aspect des collages, et puis ça faisait aussi du sens pour éloigner du personnage de... Enfin, du premier duo de personnages et d'en introduire un autre. Mais il y a aussi... C'est vrai que j'avais pas pensé à ce lien entre le dessin et l'écrit et qui fait beaucoup de sens. Mm-hmm. Bah, félicitations. Excellente analyse.
Et donc là, Marine, tu viens d'en parler, le lien à cette forêt qui va être plus vaste que juste une forêt, puisque ça va être aussi, on peut dire, un lien au vivant. Et on sait bien qu'on est dans nos engagements très proches de ce retour à la défense du vivant, alors notamment avec les écoféminismes, mais pas que, avec des réflexions très vastes sur l'urgence climatique, etc. Et là, c'est le fait que le binôme de la communauté de femmes arrive aussi grâce au vivant, avec le renard, la forêt qui est toujours présente, etc. C'est quelque chose qui... Parce qu'on a bien entendu que dans tes écrits, il y a beaucoup d'autofiction ou d'autobiographie à certains endroits, si tu me le permets. Mais cet endroit-là de réconfort du vivant, c'est quelque chose qui était obligatoire. Parce que ça aurait pu ne pas être comme ça, en fait. Tu aurais pu ne pas retourner dans la forêt, complètement quitter cet endroit du conte, en fait. Mais pour autant, sa capsule, tu es restée jusqu'au bout, au final, dedans.
Bah, je pense que j'ai voulu reprendre la forêt parce que pour moi, c'était un peu l'endroit mystérieux où on ne sait pas ce qui peut se cacher. Hein. Mais c'est aussi, dans le conte, un endroit de fuite. Et il va y avoir, pour moi en tout cas, c'est un retournement de situation dans le sens où elle y va pour, pas pour se perdre elle-même, mais elle y va pour fuir quelque chose au départ, pour chercher quelque chose aussi, mais tout d'abord pour fuir. Et puis finalement, c'est dans cette forêt où elle n'était pas en attente de grand-chose concrètement, qu'elle va trouver des choses qu'elle n'osait même pas espérer en fait. Et je pense que le rapport au vivant, il était important ici, parce que c'est une autre forme de vivant, en fait, le monde des humains l'a déçue, donc elle se tourne vers une autre forme de vivant, et là, ça va à nouveau faire sens. Et surtout, elle va découvrir des choses qu'elle pensait pas découvrir, en fait. Et moi, de façon générale, dans ce que j'écris, je pense que le rapport à la nature, il est assez présent, parce que, ça rejoint ce que je disais à l'instant, quand on est déçu de certaines choses, ben, potentiellement, on se tourne vers d'autres, et ça refait du sens à nouveau.
Grande question. Dans le sens que il y en a plein à plein d'endroits. Je pense en tant que personne. Ça commence très bizarrement. Mais non, en tout cas, en tant que moi-même, c'est un endroit où je mets énormément d'importance, notamment dans le groupe, dans la communauté, donc le vivant. Humain, mais pas que, je suis également végane, le saviez-vous? Il y a des choses importantes aussi dans cette réflexion-là, et de juste en fait prendre conscience de notre rapport au vivant, de l'impact du fait de tuer, fun. Mais au-delà de ça, aussi depuis la pandémie, je pense qu'il y a une grande volonté, j'ai l'impression, chez les gens de. Peut-être juste de ma génération, mais j'ai pas l'impression, des gens aussi plus jeunes, probablement plus vieux, mais qui l'ont fait avant nous, aussi chez les personnes issues de minorités sociales, par exemple les personnes LGBT, on est tous en mode « Ouais, on va ouvrir une commune lesbienne !» Moi, j'ai passé le confinement à regarder des documentaires sur les communes lesbiennes séparatistes des années 70, j'étais en mode genre « Incroyable !» Mais un retour donc à la ville, à la nature, et pas forcément, en plus on parle pas forcément d'expatriation rurale, mais aussi juste d'être plus conscient. Je pense en fait simplement notre qualité de vie est assez terrible, parce qu'on habite dans des minuscules boîtes qui coûtent extrêmement cher, et là quand on a été enfermé dedans, et en plus donc, quand même en étant privilégié, parce que souvent si on a pu avoir ces réflexions là, c'est parce qu'on était confiné et qu'on avait un toit au-dessus de la tête, Oui, je sais pas, je pense qu'il y a un réintérêt, et c'est très brouillon, parce qu'en fait, je pense que c'est très brouillon dans ma réflexion aussi. Là où ça l'est moins, c'est en effet mon rapport au vivant, en tant qu'animaux, donc humains et non humains, où là, j'ai peut-être un peu plus construit mes réflexions, et du coup, ça transparaît dans mon rapport en tant qu'artiste, mais parce que par exemple, dans mes histoires, et même dans celles que j'ai la chance d'illustrer, il y a vraiment cette importance du groupe, mais aussi voilà d'être. Écoutez, j'ai été sur le jury d'une bourse pour les artistes au Canada, et je peux vous dire que le grand sujet de l'été 2022, c'était l'éco-anxiété, qui s'en serait douté. Mais bref, donc je pense qu'on a voilà, on a que ça soit dans les œuvres, que ce soit dans notre vie, que ça soit enfin voilà, il y a un rapport. Désolée, je cherche des mots qui sont pas bateaux, parce que j'avais un rapport très fort, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est au cœur de nos réflexions, et moi, je pense pas que j'ai abouti la mienne, mais je pense que c'est normal, parce qu'en ce moment, c'est très mélangé de penser à tout ça, et en même temps, au cœur de toutes ces nouvelles idées, bref.
En tout cas, en vous lisant... je n'ai pas pu m'empêcher en fait de penser aussi au livre Le Renard de Pauline Armange, donc qui est une nouvelle comme ça où une jeune fille se perd dans un parc / une forêt, et qui va rencontrer aussi un renard, et qui est son personnage fétiche. Et je me suis dit, c'est chouette de tirer les fils et de faire résonner, en fait, tous ces travaux-là, enfin, tous ces travaux de narration, d'imaginaire, et de montrer, en fait, qu'il y a des endroits communs, et qu'on pourrait en faire... Enfin, je sais pas, j'ai imaginé que la jeune fille de l'histoire de Pauline pouvait très bien croiser, en fait... votre communauté à un moment donné, et que c'est le même renard qui... Bon, je suis allée très loin dans mes liens, mais je trouvais que ça hyper beau. Je me suis dit, mais en fait, on est en train de créer des nouvelles narrations qui ça fonctionne. En fait, nos référents, ils sont en train de changer.
J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de liens dans notamment la littérature entre la condition du groupe des femmes et aussi un retour à la nature. Par exemple, Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, ou Dans la forêt de Jean England, je crois que c'est. Enfin, et je sais qu'il n'y a pas que ces livres-là, mais. Et sans. Voilà, on n'est pas dans l'idée de retour. C'est pas quelque chose de retour à la terre de manière, mais il y a quelque chose d'une confrontation et d'une. De vivre dans les marges, et que les marges, c'est forcément une sorte de confrontation à la nature, donc à creuser. Mm-hmm. Personne d'autre n'y a pensé avant moi, c'est faux.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myrion. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Daron, pour ce très beau livre que je vous encourage tous et toutes à acheter, offrir. Il fait du bien, ce livre. Merci à vous deux.
Merci à toi.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Marine Perrard et de Myrion Mal, à l'occasion de la publication de leur ouvrage « La princesse sans reflet » aux éditions Daron. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Planning Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.